Radio Cité Genève présente tous les lundis à 13h05 nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois. Pour tout savoir sur ce qui fait un bon vin, pour découvrir le métier de vigneron et retrouver le terroir de notre belle région, rendez-vous tous les lundis à 13h05, rediffusion les dimanches à 17h et quand vous voulez sur radiocité.ch.
Radio Cité Genève, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de nectar.ge.ch avec Aristide, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir pour invité Sarah Mélan. Et Sarah Mélan, que vous ne connaissiez peut-être pas il y a 10 ou 15 jours, maintenant vous avez pu la voir elle-même personnellement dans la tribune de Genève, puisque aux côtés de son mari, elle est lauréate du concours de Berne. Faudra qu'on m'explique ce que c'est que ce concours de Berne, parce que je le connaissais pas. Bon, il y a une belle floraison de concours. Vous l'aurez vu, il y a des tonneaux, premier plan. Il y a le poney cacahuète. Il y a trois filles. Et puis, le couple, comme ça, qui s'est distingué à Berne. Distingué pour Sarah Mélan avec un gamay, si je me rappelle bien. Pour votre mari avec un chasselas sur l'île. Et puis aussi, une mention, mais ça, c'est un troisième rang, avec un guéra noir, si je me rappelle bien. Et vous connaissez déjà un tout petit peu Sarah Mélan, puisque vous avez sans doute lu l'article. Voilà. Alors aujourd'hui, notre invitée va nous parler du bio, parce que elle en est une des pionnières, et je vais lui poser quelques questions. Elle répondra non pas pour nous donner une information, mais comme avocate du bio, sans doute, parce que c'est sa conviction. Voilà. Les semaines précédentes, nous avons été privés de citations, et comme dans chaque émission, je me fais un devoir de vous donner une citation, eh bien, la voici. Je la livre. « Allez, vieux fou, allez apprendre à boire. On est savant quand on boit bien. » Qui ne sait boire, ne sait rien. Et alors la devinette, c'est la suivante. Qui est-ce qui a bien pu écrire ça? C'est un ancien. Eh bien voilà, ça ne s'invente pas. C'est Nicolas Boileau.
Joli.
Alors, après la citation, j'aimerais poser une question assez générale. Il commence à y avoir des vigneronnes à Genève, beaucoup. À ma connaissance, vraiment brillante, dites-nous, est-ce que les femmes ont une approche différente du vin ?
Je suis pas persuadée qu'au début on ait une approche différente. Après, c'est vrai que on a la chance d'être dans un milieu où on est extrêmement bien intégré. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, enfin, je veux dire le milieu paysan, parce qu'on fait quand même partie du milieu paysan à la base, on est très très bien intégré. Donc ça, c'est déjà une grande chance que l'on a au départ, c'est de pas voir vraiment de clivage en fait entre les hommes et les femmes dans notre milieu. Bon, en tout cas, moi, je l'ai jamais ressenti en 15 ans. Donc, alors après, au départ, je pense qu'on a on démarre un peu tous de la même manière, mais après, ben, on a comme les femmes dans beaucoup de domaines, on essaye toujours de montrer qu'on est capable. Donc, c'est vrai qu'on part en ayant vraiment toujours envie de montrer le meilleur de nous-mêmes, disons, de montrer qu'on a notre place, en fait, dans ce milieu-là.
Voilà, mais les dames n'ont pas un style particulier?
Je ne pense pas, non.
Non, voilà. Non. Les dames font, à mon avis, de très très belles percées. Savez-vous qu'il existe donc un concours qui s'appelle Féminalise?
Oui, tout à fait.
Voilà, donc j'étais épaté de voir s'il se réunit à Beaune, en principe, dans la maison des congrès. Et il y a à peu près 200 de ces dames qui sont à des tables, bien rangées par 6, et que des dames qui se prononcent sur les vins. Et c'est un concours, à mon avis, tout à fait sérieux, qui donne beaucoup de récompenses, beaucoup de médailles, mais c'est quand même du sérieux. En quelques mots, qu'en est-il du concours de Berne, dont j'ignorais tout jusqu'à samedi dernier?
Alors en fait, ça s'appelle donc le Grand Prix des vins suisses. Donc c'est vrai que les concours se font soit par cépage. Je veux dire, il y a le mondial du Merlot, le mondial du Pinot. Il y a des concours aussi cantonaux. Donc il y a typiquement à Genève la sélection des vins de Genève, qui est notre concours cantonal. Et au niveau suisse, il y a un concours en fait qui regroupe tous les cantons suisses. Et où il y a 12 catégories en fait. Donc vous avez des catégories chasselas, gamay, blanc pur, assemblage de blanc, etc., vin doux, mousseux, rosé. Et donc, dans ces 12 catégories sortent 6 nominés à chaque fois. Donc il y a, ça représente 2920 dégustés, 550 caves. Donc c'est un relativement gros concours. Et donc voilà, donc là, vous avez ces 12 catégories avec à chaque fois 6 nominés. Et quand vous allez à Berne au gala, en fait, les 6 nominés montent sur le podium. Puis ben là-dedans, un peu comme aux Oscars, il y a une enveloppe et on sort les 3 premiers. Et c'est là, en fait, où vous êtes, vous avez une statuette, finalement, qui représente votre premier, deuxième ou troisième rang, où vous repartez avec la médaille au chocolat, comme on dit, vous êtes 4, 5 ou 6e et vous avez juste un diplôme.
Est-ce que de telles distinctions boostent les ventes? Est-ce que vous constatez un attroupement devant la ferme de Coligny?
Ça ne booste pas forcément les ventes, mais ça amène une reconnaissance, en fait, dans ce sens-là. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. L'image se construit, finalement, tout au long de la vie d'un vigneron. Et puis, c'est une pierre à l'édifice. Disons, on travaille, on fait sa place, on fait connaître ses vins, je veux dire, petit à petit. Et puis, ben voilà, ça fait partie, en fait, de l'image qu'on est content de pouvoir créer, finalement. Puis après, ben, on espère qu'on tient. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir et ça amène quelque chose à l'image plus que des ventes. Bien sûr qu'il y a des gens qui viennent pour cela, mais disons, je pense que c'est plutôt une reconnaissance et puis une question d'image.
D'accord, bien. Le domaine de la vigne blanche, je pense que c'est le plus proche de la ville de Genève. C'est toujours tout droit pour trouver. Alors vous prenez la route de Frontenay, vous passez devant le stade de Frontenay, et puis un ou deux virages, un ou deux feux rouges, et puis direction Vendeuvre. Si vous loupez le virage, vous arrivez dans la ferme de la vigne blanche, c'est bien ça?
C'est exactement ça, oui, le plus proche de la ville.
Voilà, et la vigne qui est sur la route qui va à la Capite, est-ce qu'elle fait partie du domaine?
Oui, alors il faut savoir que nous on est entièrement en fermage, hein, donc on n'a aucun bâtiment ni aucun terrain qui nous appartienne, et donc la parcelle dont vous parlez, qui donne une magnifique vue sur le lac également, qui est vers le Golf Club de Genève, c'est une parcelle qui appartient à la commune de Coligny, donc c'est nous qui la travaillons, ça s'appelle réserve de la commune, mais c'est une parcelle qui appartient à la commune de Coligny.
Tout de suite, nous allons faire une première pause dans nectar.ge.ch. Ne bougez pas, nous revenons très vite.
Radio Cité Genève, 92.2 FM.
Ça y est, t'as bien compris, t'as bien appris, ça sert à rien de t'impliquer, ça y est, t'as bien saisi, t'as bien pigé, ça sert à rien de t'indigner. Où sont ta colère, ta frustration, tes larmes de joie et ton sourire? Toi qui savais dire que t'es pas d'accord, c'est pas ce monde que tu veux construire. Vas-y, bouge ton corps, t'es pas forcé de danser, t'es pas forcé de chanter, bon sang, bouge ton corps. Montre-moi que t'as envie, montre-moi que t'es envie, je veux que tu t'enflammes. T'as pas besoin de chanter, t'as pas besoin de sauter, dans sans bouge ton âme. Bouge tes frontières, tes limites, tes préjugés.
Kleni srce i molim te daj, ne da ljubavi da bude kraj. Bouge ton cœur, univerzalna, bez očekivanja. Ljubav neka sja, iz dubine, bez uvjeta. Amour za vječnost, ne za tijelo, vezana i kad te život tlomi. Budi stjena, sem dahom klesana.
Vas-y, bouge ton cœur, t'es pas forcé de danser, t'es pas forcé de chanter, bon sang, bouge ton cœur. Montre-moi que t'as envie, montre-moi que t'es envie, je veux que tu t'enflammes. T'as pas besoin de chanter, t'as pas besoin de sauter, bon sang, bouge ton âme. Bouge tes frontières, tes limites, tes préjugés.
Osjećaj, donne-moi taj sjaj, kada plešeš a tebe nitko ne gleda. Pusti, neka gori, neka iz dubine sja. Zemlja nema granica, naša duša nema kraj.
Vas-y, bouge ton cœur,
pokreni srce iz dubine, neka sja.
Sans bouge ton cœur,
au rythme douche, Bože, daj, daj.
Je veux que tu t'enflammes.
Et quand t'es romi, pièce-moi, sève d'achat.
Sans bouche, ton âme.
Créni, srce, nebo, da ti bude kraj.
Radio Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
De retour sur Radio Cité Genève dans nectar.ge.ch avec Aristide.
Vous avez fait le bon choix, vous êtes sur Radio Cité et avec un peu d'assiduité, vous connaîtrez bientôt tout sur les vins genevois et vous parviendrez à acheter à bon escient. Donc nous revenons à nos moutons et aujourd'hui le sujet, c'est un sujet qui ne peut pas laisser indifférent, c'est-à-dire le bio. J'avoue ne pas le connaître beaucoup, je suis sur la case zéro et je suis à convaincre, n'est-ce pas Sarah Mélan? Alors je vais vous poser quelques questions. D'abord une question commerciale comme ça. Si je vais au marché de Plainpalais, j'achète des fenouilles, 3,50 francs le kilo. J'achète des fenouilles bio, je vais les payer par exemple 5,40 francs. Est-ce que les vins bio sont plus chers que les vins non bio?
Pas forcément, et surtout pas dans les mêmes proportions. Donc il n'y aura pas un delta aussi important entre un vin normal et un vin bio. Et voilà, pour certains ont pris l'option d'avoir des vins un peu plus onéreux. Ce n'est pas le cas de tous les vignerons bio.
Voilà, alors est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est exactement un vin bio? Parce qu'il y a toutes sortes de termes qui courent. On parle aussi de production intégrée, de production responsable, de biodynamie, de bio. Où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça?
Alors, personnellement, je travaille en biodynamie en l'occurrence. Donc, si on veut faire un peu une gradation, je dirais, ce qui s'appelait le conventionnel à l'époque, on en trouve pour ainsi dire plus en Suisse. Donc, en Suisse, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je peux quasiment assurer que l'ensemble des domaines qui ne sont pas en bio sont en production intégrée. Donc ça veut dire en fait que vous ne pouvez pas traiter si vous n'avez pas pu prouver qu'il y avait un problème. C'est-à-dire qu'il fut un temps où on traitait de manière systématique contre certains ravageurs, contre certaines maladies qui finalement ne touchaient pas tellement le vignoble. Donc le but, c'est dans un but de développement durable, si vous n'avez pas d'araignées rouges, pourquoi traiter contre les araignées rouges finalement? Ou si vous n'avez pas certaines maladies ou qui sont mais vraiment minimes, qui n'ont pas un impact sur le rendement ou sur la qualité de votre raisin, pourquoi traiter? Alors qu'avant on traitait de manière systématique. Donc ça c'était la viticulture plus conventionnelle. Ensuite on est passé donc à la production intégrée. Dans la production intégrée, il y a un cran de plus qui s'appelle le label Vinatura, où là vraiment vous devez faire des efforts supplémentaires. Donc vous avez une liste d'efforts supplémentaires et vous devez en compléter un certain nombre. Vous avez une sorte de carcan de base qui est déjà plus restrictif et en plus vous faites des points efforts. Et donc là vous pouvez atteindre le label Vinatura Développement Durable. Mais on est encore avec des produits qui proviennent de la chimie de synthèse. Donc on va les diminuer, on diminue le maximum possible, mais on utilise encore dans notre palette, en fait on a encore la possibilité d'utiliser des produits de synthèse. Ensuite on passe dans la viticulture bio, où là en fait on ne peut utiliser que ce qu'on serait capable de trouver dans la nature de manière naturelle. Donc dans la nature vous pouvez aussi trouver des choses épouvantables, mais donc on peut aussi trouver des choses très bien. Et donc nous on s'appuie en fait, les deux piliers vont être en fait en viticulture dans les traitements, le soufre et le cuivre. Donc le soufre pour lutter contre l'oïdium, et ça c'est une maladie qui est avérée chaque année, je veux dire où il y a des années où il y a des prédispositions à l'oïdium, mais disons c'est une maladie qui est là en permanence, et le cuivre contre le mildiou qui est une maladie qui est là également en permanence. Donc là, que vous soyez en production intégrée, en bio, en biodynamie, le mildiou et l'oïdium, vous n'y coupez pas chaque année, vous devez lutter contre dans nos régions. Donc on utilise le cuivre et le soufre. Et donc pour le reste, en fait, vous allez traiter avec des huiles, vous allez peut-être, je veux dire, mettre certaines tisanes si vous avez envie de travailler avec des tisanes de plantes, comme pour vous, si vous avez une mal à la gorge, vous allez vous faire une tisane de thym. La vigne, c'est un peu la même chose, il y a des plantes qui peuvent l'aider. Donc vous pouvez vous appuyer là-dessus.
Donc vous faites toutes sortes de préparations, vous avez un endroit où vous faites toute une alchimie que vous allez déverser sur la vigne pour conjurer le mal.
Déverser, je ne sais pas si c'est vraiment le terme.
Vaporiser.
Non, voilà, exactement. On va faire des traitements. Effectivement, alors après, pour en finir, donc après on a la viticulture qui travaille en biodynamie, où là on essaye vraiment de faire un équilibre cette fois, pas seulement de penser maladie, traitement, mais de penser à l'équilibre de la plante dans son milieu. C'est-à-dire on intègre le sol, la plante, mais également si je puis dire, ça fait grandiloquent, mais le cosmos. Donc là, maintenant, on fait rentrer, en fait, toute l'influence que peuvent avoir les planètes, et en principalement la Lune, sur le développement de notre plante, en l'occurrence la vigne.
Est-ce que c'est avéré, le développement de la Lune? Parce que il y a des gens, par exemple, qui disent que la Lune fait pousser les champignons, suivant son état. Et puis, j'en suis pas persuadé, et je me demande, pour la Lune, qu'est-ce que vous dites? Comment est-ce que vous défendez ça?
Écoutez, il y a quelques siècle, on pensait pas que la Lune avait de l'influence sur les marées, donc je pense que quand on voit la masse des océans et les marées, je pense qu'on peut pas douter du fait que la Lune a une influence, en fait, sur le vivant. Et donc, elle a une influence notamment sur l'eau, et donc, parce qu'il y a donc chaque planète va être liée, en fait, à un élément, et donc la Lune est liée à l'eau, et donc les plantes sont constituées d'eau, on est constitué d'eau également, donc effectivement, il y a une influence de la Lune qu'on peut difficilement nier, parce que, disons, elle est avérée pour d'autres domaines. Maintenant, dans la viticulture, on voit, je veux dire, qu'il y a certains traitements ou certaines applications qu'on peut faire qui ont vraiment une influence en fonction de leur placement par rapport à la Lune. Ouais.
D'accord, là vous m'avez passablement convaincu. J'aimerais vous demander, en somme, quelle est votre motivation à faire du bio? J'ai cru comprendre que dans certains très grands domaines, très célèbres, qui produisent des vins très coûteux, on se mettait au bio peut-être pour raison patrimoniale, c'est-à-dire pour ne pas empoisonner le sol, puisque le patrimoine d'un vigneron, son premier bien, c'est son sol. Donc, est-ce que parmi vos motivations, il y a le fait de ne pas empoisonner votre bien le plus précieux?
Oui, tout à fait. Mais c'est, enfin, et également, enfin, nous-mêmes, finalement, et nos employés, parce qu'il faut bien réaliser aussi que, ben, il y a le sol, il y a la plante, mais il y a aussi tous les gens qui y travaillent. Et c'est vrai qu'on est plein d'inconnus, finalement, avec les produits de nos jours, que ce soit, mais les produits d'entretien de la maison, des produits de, les peintures, peu un peu, les solvants, je veux dire, il y a énormément de choses, énormément d'inconnus, finalement. Donc, en passant en bio, je dis, on en enlève un petit bout, on va dire. Donc, je veux dire, on sait que le cuivre et le soufre, on n'en mangerait pas, c'est sûr. Mais c'est des produits qu'on... Je ne veux pas dire qu'on les maîtrise, mais disons dont on a une certaine connaissance. Et c'est vrai que c'est plus... On est plus à l'aise, disons, maintenant qu'on traite avec ce genre de produits. On a l'impression d'enlever certains points d'interrogation et de diminuer le cocktail de choses qu'on peut absorber, en fait, dans l'année. Et puis après, au niveau des sols, c'est vrai qu'on traite avec du cuivre. Donc, le cuivre reste est rémanent, finalement, dans les sols. Donc, on essaye de diminuer la quantité de cuivre. Mais à terme, on ne sait pas quelle va être l'influence, finalement, la chimie de synthèse, c'est quelques décennies, c'est rien du tout à l'échelle du vivant. Ouais, donc l'impact que ça a eu ou que ça peut continuer à avoir, on ne le connaît pas. Donc si on arrive à diminuer le plus possible maintenant, quelque part, pour moi, c'est tout ce qu'on peut amener de plus à l'avenir. Donc ça concerne pas que la viticulture bio, mais je pense les grandes cultures également, enfin l'agriculture dans son ensemble.
Nouvelle pause dans nectar.ge.ch. Et nous revenons tout juste après.
Radio Cité Genève.
I'm
Radio Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Vous écoutez Radio Cité Genève, c'est nectar.ge.ch, spécial bio aujourd'hui avec Aristide et Sarah Mélan.
Sarah Mélan, figure de proue du bio. Voilà, on a parlé de votre motivation qui est environnementale. Je ne sais pas si vous vous qualifieriez d'écologiste ou d'écologisante, mais il y a quelque chose de ça. Est-ce que votre motivation, c'est aussi de préserver la santé des gens? Parce que je vois que dans les supermarchés, des gens qui achètent des poireaux bio, dans certains caddies, on voit que du bio. Et c'est des gens qui cherchent à protéger leur santé, sans aucun doute. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui offre aussi une garantie quasiment médical, le vin bio pour les consommateurs?
Comme j'ai pu le dire, c'est vrai qu'on diminue finalement le nombre d'inconnus. Donc voilà, on est obligé de se nourrir, donc on mange toutes sortes de choses, on boit toutes sortes de choses dans l'année. Et c'est vrai que je pense que quand on diminue le nombre d'intrants, ça peut pas faire de mal finalement de diminuer le nombre de molécules qu'on ingère en plus de notre nourriture. Parce que c'est vrai qu'on mange pas mal de choses en plus de nos poireaux, de nos yaourts ou de notre vin. Il y a pas mal d'autres choses qui rentrent dans l'organisme, et si on peut diminuer le nombre d'intrants, je pense que ça fait pas de mal.
Voilà. Quand vous dégustez un vin, est-ce que vous arrivez à voir si c'est un vin bio?
Est-ce que vous impossible. Le décelez? Impossible.
C'est impossible. Ouais. La question qu'on n'a pas posée et que beaucoup de consommateurs se posent, c'est celle des sulfites. Dans un vin bio, est-ce qu'on peut mettre des sulfites?
Alors justement, je vais essayer de lever une partie du voile parce que vous n'en avez pas parlé auparavant, mais c'était sur les vins dits naturels. Donc il y a des labels, il y a des choses qui existent, donc la production intégrée, le bio, la biodynamie, il y a des labels, il y a des cahiers des charges qui sont mis en place, et en général le consommateur peut savoir à quoi il peut s'attendre et il peut retrouver assez rapidement quel est le cahier des charges de la production qu'il est en train d'acheter. Le vin naturel, c'est une sorte de nébuleuse, en fait on ne sait pas exactement ce que ça regroupe, parce que vous pouvez très bien décider de faire du vin naturel de prime abord. En général, vous partez d'un vin bio, d'un raisin bio, je vais dire. Mais par contre, par la suite, il n'y a pas de législation autour de ça. Donc chacun peut décider de produire du vin dit naturel. Et donc, en général, c'est du vin où on ne rajoute pas de sulfite, mais pas toujours. Donc les sulfites nous servent, j'aime bien cette image-là, si vous coupez une pomme en deux, et vous l'avez posée sur la table, en très peu de temps, elle va noircir. Si vous mettez une goutte de citron dessus, elle va rester blanche. Et donc, les sulfites dans le vin, c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que le vin peut supporter, notamment les rouges un petit peu plus avec leur couleur, les anthocyanes ou les tanins, peuvent supporter l'oxydation, les vins blancs beaucoup moins déjà, mais les sulfites nous servent en fait, c'est la petite goutte de citron qu'on met sur une pomme, à part que c'est pas forcément du citrique, mais ça va être en fait du sulfite. Donc ça nous permet d'avoir une certaine garantie dans le temps. Si vous pouvez accompagner votre vin jusqu'au moment où votre consommateur va l'ouvrir, c'est-à-dire il l'achète chez vous, au bout de 6 mois, vous lui avez dit, vous savez, c'est un vin naturel, j'ai pas rajouté de sulfite, il évolue. Le vin, c'est vivant. Donc, votre vin va évoluer, il sera différent chez vous. Si vous avez la possibilité d'accompagner votre bouteille jusque chez le consommateur final, tant mieux. Maintenant, si la bouteille, vous ne pouvez pas l'accompagner jusqu'au consommateur final et que vous avez pris l'option de ne pas mettre de sulfite, mais qu'au bout de 6 mois ou d'une année, le vin, malheureusement, s'est altéré, et que vous n'avez pas la possibilité d'expliquer pourquoi à votre client, je trouve que c'est le risque réside là-dedans finalement. Si un client l'achète par conviction sans sulfite, donc sans rien qui va le protéger contre l'oxydation ou les mois ou les années, si le consommateur le boit en tant que tel, tant mieux. S'il l'ouvre et qu'il trouve qu'il est mauvais, c'est dommage parce qu'il y a quand même une année de travail derrière. Donc c'est un petit peu ça, là où se trouve la limite. Et puis après, faut pas non plus que pour que le vin soit naturel, il soit imbuvable. Parce que c'est bien joli d'avoir un vin bio, naturel, mais si vous ne le trouvez pas bon à la fin, c'est un peu dommage. Donc le but du sulfite, c'est de faire en sorte que vous allez jusqu'au bout et que quand le consommateur ouvre la bouteille chez lui ou au restaurant, il trouve que c'est un bon vin.
Oui, là on est d'accord. Donc si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi votre exposé, bio et sulfite ne sont pas incompatibles.
Non.
Pas du tout, d'accord. Peut-être qu'il y a des gens qui... Non, parce que les sulfites, tout le monde, enfin toutes les personnes qui ont trop bu, accusent les sulfites au réveil le lendemain matin. Donc.
Alors les sulfites, on peut mettre plus ou moins de sulfites pour préserver son vin aussi. Il faut savoir qu'il y a des normes et que les normes sont relativement hautes. C'est-à-dire que pour arriver à la norme de sulfitage, là vous en avez mis vraiment beaucoup. En général, les vins situent à la moitié de la norme, voire à un quart de la norme. Donc on est toujours en dessous. Maintenant, certains vins nécessitent plus de sulfite. Ça va être des vins qui ont du sucre, qui peuvent refermenter en bouteille. Ou aussi, et là, je veux dire, je pense dans le sens de votre rubrique nectar.ge.ch, c'est-à-dire que plus le vin doit voyager, être stocké dans des conditions qui sont pas forcément idéales, puis il aura besoin de sulfite pour combattre. Donc, typiquement, pour ma propre production, elle ne pourrait pas être exportée en Chine, passer 3 mois sur un bateau, 2 semaines en plein soleil dans un container, puis ensuite voyager sur un camion au chaud, au froid, à la lumière. Donc, je prépare pas des vins qui sont capables de supporter un tel traitement. Donc après, certains vins, effectivement, on pousse les sulfites plus haut pour que le vin puisse supporter le chaud, le froid, enfin, toutes sortes de phénomènes qui pourraient se produire.
Voilà, donc, il faut consommer local, en résumé.
C'est un peu ça.
Voilà. C'est ce qu'il faut dire. Nous consacrerons une fois une émission à la conservation du vin parce que c'est le problème de beaucoup d'acheteurs. Si je me promène comme ça dans la campagne genevoise, dans le vignoble, est-ce que je vois une différence entre les vignes bio ou les vignes qui ne sont pas en bio?
Alors, le premier marqueur, finalement, parce que c'est ça qui amène aussi de la difficulté. Il faut savoir que le plan de traitement en soi, mildiou et idium, c'est relativement facile à maîtriser, je dirais. Je veux dire, on peut se mettre dedans, on peut l'acquérir. La difficulté, finalement, du passage en bio, où que vous vous trouviez dans le monde, ça va être finalement la concurrence des mauvaises herbes. Donc alors, à part si vous êtes dans un sol totalement aride où rien ne pousse à part votre vigne, mais sinon, ça va être cette concurrence en fait, avec la mauvaise herbe. Donc normalement, on peut désherber. Donc quand vous désherbez, vous passez un herbicide, c'est un produit qui provient de la chimie de synthèse, qui est donc interdit en bio. Donc en bio, on va devoir faire un travail mécanique. Donc, ou un travail peut-être avec de la vapeur, en brûlant éventuellement, mais sinon c'est principalement un travail mécanique. Il faut réussir en fait à passer son vignoble en bio. La plus grosse tâche, c'est de réussir à désherber, en fait, à enlever la concurrence des mauvaises herbes. Donc si vous vous promenez dans le vignoble et que vous voyez que le rang de vigne c'est travaillé, ou qu'il reste quelques mauvaises herbes, parce qu'on n'arrive pas à toutes les enlever mécaniquement, vraisemblablement c'est quelqu'un qui est soit en bio, soit qui tend à être en bio.
Fin de la troisième partie de nectar.ge.ch. Ne bougez pas, la quatrième arrive très vite.
Radio Cité Genève.
We try to hide them, leave them in the cellar, gathering dust. We cover the weak bits, show only the good sides. But I don't want this, it's gotta feel right. So let's build a house starting with the ground. If we work together, we can work it out. In the loudest storm, we can be so proud. Cause it won't. From our shoulders, a house can be shaken, but I want you to know, love, I'll make a promise, swear on all life, this roof will hold us as long as we're alive.
Radio Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Retour sur Radio Cité pour nectar.ge.ch avec Aristide et Sarah Mélan.
Voilà encore quelques questions sur le bio, si vous permettez, pour enchaîner avec ce que vous venez de dire. Si vous avez une vigne qui est livrée aux herbes folles et aux ronces, c'est pas forcément une vigne en bio.
Normalement, on espère surtout qu'elle n'est pas livrée aux mauvaises herbes et aux ronces. Ça, c'est tout notre travail, justement, c'est de faire en sorte de ne pas se faire dépasser. Parce que la nature a une force vraiment, enfin, qui est bien supérieure à la nôtre. Et c'est vrai qu'il y a des années, tant qu'il pleut, on ne peut pas forcément bien travailler dans les vignes. Il y a des années où, comme là, il fait extrêmement sec, la terre est dure. Donc, on doit adapter finalement notre travail aux conditions climatiques. Donc, c'est pas, on a beau avoir trouvé la machine, enfin, ou les machines, parce qu'il va falloir plusieurs machines, mais les machines idéales pour travailler sous notre rang, la météo, après, joue son rôle aussi. Une année comme cette année, il n'y a plus rien qui pousse depuis le mois de juillet. Donc, c'est sûr que c'est assez facile. Le travail sous le rang, on n'est jamais retourné. Une année où il pleut tous les 15 jours et que l'herbe pousse, mais ça tout le monde a pu le remarquer dans son propre jardin. Là, on arrive à l'automne, enfin, on est bien l'automne est bien entamé, il n'y a plus rien qui pousse depuis longtemps.
Je pose la question sans mauvais esprit parce que ça m'arrive de me promener dans les vignes, j'adore ça. Et puis alors, on voit des vignes qui ont l'air très très bien tenues, d'autres qui ont l'air plus négligées, hein, faut le dire. Et puis, à part les feuillages qui partent en tous sens, etc., au moment où les grappes sont à peu près mûres, on voit à certains endroits de très très belles grappes, et puis à d'autres endroits des grappes qui sont passablement malades. J'aurais voulu vous demander, vous avez certainement été au courant des déboires d'un vigneron de la région de Beaune qui s'était fait attaquer par ses collègues, ça fait 2-3 ans, hein, parce qu'il ne traitait pas, et alors ses collègues très courroucés disaient, mais tu nous fiches la maladie à nos vignes, c'est un tort que tu nous fais, c'est une atteinte, et il y a eu un procès, l'affaire s'est réglée en justice. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement ?
Alors, si je ne m'abuse, ça concernait pas le mildiou ou l'oïdium, parce que ça, que vous soyez en bio, en biodynamie ou en production intégrée, vous devez lutter contre ces deux maladies, sinon vous n'avez pas de récolte. Donc, il me semble que il s'agissait en fait de traiter le vecteur de la flavescence dorée, qui est un insecte en fait, qui amène une maladie qui entraîne des conséquences dramatiques, c'est-à-dire que le vignoble meurt petit à petit, mais surtout si on trouve de la flavescence dorée dans vos vignes, elles vont être arrachées ou vous serez mis en quarantaine, ou le secteur sera en quarantaine. Et donc, il me semble qu'en fait, ce vigneron avait refusé de mettre un insecticide dans ses vignes contre la cicadelle qui est la vectrice de la flavescence dorée. Et là, le problème, c'est que voilà, maintenant toute la difficulté, vous n'avez pas le droit en fait d'utiliser de produits de synthèse en bio. Et normalement, vous essayez de tuer le vivant le moins possible. Donc pour lui, c'était très difficile, n'ayant pas en fait de flavescence dorée dans ses vignes, mais il y en avait sûrement dans le secteur. Il souhaitait pas traiter finalement ses vignes avec un insecticide, mais il pouvait créer aussi une cellule en fait où la cicadelle était présente. Donc si vous avez un vigneron bio sur 2000 hectares et que lui ne traite pas, ça va, c'est un peu comme les vaccins pour les humains finalement. Mais si vous avez, si 98% des enfants sont vaccinés, ils protègent les 2% qui restent. Mais un vigneron bio, si sur 2000 hectares, il y a 2 hectares qui ne sont pas traités à l'insecticide, les autres vont le protéger. Maintenant, si lui a une grosse proportion dans la région et puis qu'il fait un poumon de cicadelle pour le reste, ouais, j'ai de la peine à trancher. Ses convictions étaient de ne pas tuer le vivant dans sa parcelle, mais d'un autre côté, si son vignoble est tellement important qu'il crée un poumon de cicadelle pour l'ensemble de ses collègues, c'est vrai que ça devient gênant.
Voilà, donc je déduis que c'était pas une simple lutte idéologique, mais qu'il y avait quand même un problème de contamination. Je vais vous poser une dernière question. Comme tenante du bio, est-ce que vous vous sentez suivie par les autres ? Est-ce que vous avez l'impression que tout le monde s'y met peu à peu, que c'est irréversible ou que ce n'est qu'une mode ?
Alors, je suis persuadée que c'est pas une mode. Alors, vous avez dit, peut-être à un moment que j'étais pionnière, je suis pas du tout pionnière en bio. Il y a des domaines à Genève qui étaient en bio.
Crétigny,
exactement. Monsieur. Je veux dire, les Balisiers, il y a des domaines qui ont démarré il y a bien longtemps. Il y a eu une deuxième vague, je dirais, il y a une dizaine d'années de cela. qui s'est lancé. Et puis maintenant, on est depuis ces 2-3 dernières années, beaucoup de domaines en fait, mais on est pas mal de domaines à passer en bio. C'est vrai qu'il faut se rendre compte aussi que on parlait des herbicides, et c'est ça qui fait que les gens basculent aussi. Faut se rendre compte, c'est que les herbicides lâchent de plus en plus. Donc les grandes maisons qui créent des produits tous les 3 ou 4 ans, la recherche et développement à l'heure actuelle coûte extrêmement cher. Les tests sont soumis à de plus en plus, de restrictions, ce qui fait qu'il y a bientôt plus de matières actives qui sont créées. Et les matières actives actuelles lâchent. C'est-à-dire que vous avez un Roundup dont on parle beaucoup, le glyphosate, qui va tout d'un coup avoir en Suisse maintenant peut-être 12 ou 15 plantes qui résistent. Donc vous mettez un produit dont vous savez que vous en prendriez pas un dé à coudre au petit déjeuner, mais en plus de ça, il fait même pas le boulot. C'est-à-dire qu'il il y a 15 plantes qui restent, puis ces 15 plantes d'année en année, les résistances sont de plus en plus importantes, donc vous vous retrouvez à traiter et à avoir sous le rang autant d'herbes qu'avant. Donc les gens se rendent bien compte qu'on mine de rien, donc je pense que les herbicides, c'est ça qui est le premier travail à faire. Et les gens rentrent en fait dans le bio maintenant en se disant ok, on sait que dans les 10 à 15 prochaines années, le fait de désherber avec des herbicides, les matières actives qu'on a actuellement, elles lâchent.
Voilà, donc en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que inexorablement le bio gagne du terrain, ça me semble assez clair. Voilà, je crois qu'on a appris beaucoup de choses sur le bio. Nous allons passer à la chaussette. Il y aura une petite pause avant. J'ai retenu, par exemple, et je m'instruis aussi, que Sarah Mellan, qui tient compte des phases de la Lune, fait exactement comme Aubert de Villene, qui est le maître de la Romanée-Conti, qui s'intéresse aussi à cette dimension-là de la viticulture. Voilà, donc vous êtes sur le même palier que la Romanée-Conti.
Nectar.ge.ch, une pause, et on revient juste après avec la fameuse chaussette.
Radio Cité Genève.
Cité Genève présente nectar.ge.ch, l'émission sur les vins genevois.
Radio Cité Genève, nectar.jeu.ch, le retour. Tout de suite, voici le fameux épisode de La Chaussette avec Aristide et son invité, Sarah Mélan.
La Chaussette, donc, c'est un cours de dégustation à distance. Nous soumettons Sarah Mélan non pas à une épreuve, mais à une dégustation, c'est-à-dire qu'elle va dire les caractéristiques du vin que je lui propose à goûter. Et puis, la question ciblée sera la suivante. Que pouvez-vous dire de la conservation du vin que vous avez goûté? Est-ce qu'il a un potentiel de conservation? Quels sont peut-être les défauts qui empêchent cette conservation? Et quel pronostic faites-vous dans la durée pour cette marchandise? On ouvre la bouteille bruyamment comme il se doit. Silence et recueillement, c'est normal. Il faut savoir prendre le temps d'humer un vin. C'est pas quelque chose qui se fait en un éclair. Il faut y consacrer 10, 15, 20 secondes.
Donc, première remarque, le bouchon n'est pas très clair. Ça veut dire quoi?
C'est vrai qu'il a une odeur en fait de liège assez marquée. En général, avec le temps, cette odeur se neutralise, disons. Et là, on voit que c'est relativement prononcé. Mais au nez, en tout cas, on ne le retrouve pas.
Moi, je le retrouve au nez. Je la retrouve, au nez, l'odeur. Faut le dire sans détour.
Moi, je la retrouve plus un petit peu en bouche. Disons, il est... C'est pas un bouchon extrêmement marqué, mais malheureusement, ça n'empêche pas de le déguster. Je veux dire, c'est pas un bouchon extrêmement prononcé. Il va même, en s'aérant, il va même sûrement un petit peu partir. Maintenant, c'est vrai que quand on déguste un vin, vous dites, on met un peu du temps. On a quasiment 70% des informations entre la vue et le nez. Donc on a déjà presque tout à ce moment-là. Maintenant, il reste à prendre en bouche pour finir sa dégustation. Donc là, on voit, sans trop me tromper, je pense que c'est un vin qui a quand même quelques années. Je veux dire, on voit la couleur, il a un certain dépôt. On voit que c'est un rouge, donc la couleur c'est un petit peu tuilée. Donc on voit qu'il a déjà cette petite couleur marron. Donc ça, avant même de mettre le nez dessus, j'ai déjà une partie des informations.
Il a quelques années.
Il a peut-être pas 15 ans, mais en tout cas, c'est pas un vin de l'année. Voilà, je veux dire, on voit déjà que c'est, je pouvais vous dire déjà de prime abord que c'était pas un vin de l'année, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est un vin qui a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça?
Est-ce qu'il faut le conserver?
Là, avec le bouchon, c'est un peu difficile, je veux dire, de savoir s'il faut le conserver. Voilà, je veux dire, on arrive quand même à se rendre compte qu'il a une masse tannique. Je pense que c'est un vin qui va maintenant être de moyenne ou courte garde. Je pense pas qu'il a peut-être pas, avec le bouchon, c'est difficile. Je veux dire, voilà, je déguste le vin d'un collègue. C'est difficile de présumer ce qu'il aurait pu être exactement avec un bouchon correct. Mais je pense que c'est un vin qui a une maturité, qui a sa maturité optimale. Et je pense pas qu'il faille le garder pour gagner quelque chose, en fait. C'est dans ce sens-là.
Est-ce que vous l'utilisez pour une sauce ou pour faire mariner un ragoût?
Non, alors ça, c'est sûrement pas moi qui vais vous dire une chose pareille.
Une question d'un néophyte. Une fois qu'un vin a un goût de bouchon, est-ce qu'on peut sauver la situation?
Oui, il y a quelques petites stratégies.
Ben, disons, si c'est un goût de bouchon qu'on sent, mais qui n'est pas hyper marqué, donc il va falloir l'aérer, en fait. Donc, un goût de bouchon qui est marqué, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose pour ça. Maintenant, certains vins, c'est dommage, même certains grands vins qu'on pourrait avoir, c'est dommage de directement, en fait, le mettre à l'évier. Je veux dire, si on l'aère, on le carafe, on attend un moment, des fois, ça peut partir. Et mine de rien, la structure est toujours là. C'est un vin qui a quand même des tanins. C'est un vin qui a une structure, une acidité. Alors, on va perdre au bouquet, c'est sûr qu'on perd une partie, mais par contre, le vin a quand même sa structure. Donc là, on sent que c'est un vin qui a quand même une structure, qui a une belle structure derrière. Maintenant, voilà, je ne sais pas de quelle année il est. Moi, je dirais qu'il est à son optimum. Et puis, c'est un vin que je dégusterai, je pense, dans les 2 à 3 ans qui viennent. Je pense pas je vous dirais pas gardez-le pour la suite. Je pense qu'il est à maturité optimale à l'heure actuelle.
Voilà. Vous me dites, c'est la dernière question que je vous pose, je crois. Si je suis un sauvage, alors des fois, quand j'ai le même problème, je carafe le vin. Je le verse gentiment, il s'aère, comme vous avez dit. Ou bien, méthode plus rapide et plus violente, je mets le doigt sur le col de la bouteille, je la secoue un moment, ça fait tout un brassage, et puis je crois constater que le goût de bouchon s'estompe un tout petit peu. Est-ce que ça vous semble sauvage ou bien judicieux?
C'est exactement ça, ça me semble un peu sauvage, mais le travail est le même que le carafage. Non, c'est vrai, quand je vois faire ça, il y a des gens qui le font. ça me fait toujours un peu bizarre parce que voilà, vous avez mis du temps à le préparer, etc. Puis qu'il finisse en étant secoué, ça, c'est un peu choquant. Mais je dois avouer que le but est le même qu'un carafage. Donc, si vous n'avez pas de carafe sous la main, ben vous pouvez procéder de la sorte.
Voilà, donc Aristide est un personnage violent, si vous ne l'aviez pas observé. Voilà, eh bien, je vais vous laisser le soin d'enlever la chaussette maintenant et nous dire de quoi il s'agit au juste.
Alors, qu'on soit bien d'accord, je veux dire, c'est un vin qui avait un goût de bouchon. Donc, je veux dire, c'est, tout ce que j'ai pu dire était toute précaution prise.
C'est un vin d'Arvelac.
Donc, c'est un vin, effectivement, de la rive gauche. Donc là, on est donc sur un vin de 2013. Donc voilà, je veux dire, on était sur 5 ans, je ne suis pas trop faux.
Gagné.
Et c'est un assemblage Gamay-Pinot Noir du Château du Crêt. Et puis, ben, quelque part, le goût de bouchon, je tiens aussi à le dire que je pense que c'est tout à leur honneur. J'ai le bouchon sous les yeux, c'est un vrai bouchon de Liège. Et puis, je pense que pour la clientèle, si je puis encore me permettre de rajouter ça, il existe toutes sortes de systèmes de bouchage. Et le plus risqué pour un vigneron, c'est de mettre un bouchon Liège. Parce qu'il existe il existe des fermetures à vis, il existe des bouchons en plastique, il existe des bouchons en composite, il existe des bouchons en poussière de Liège agglomérée. Ça se fait beaucoup à l'heure actuelle. C'est des bouchons qui ne coûte pas extrêmement cher et qui vous assure de ne jamais avoir de goût de bouchon, mais finalement ça n'aura jamais la classe d'un bouchon en Liège. Et donc c'est tout à leur honneur pour moi qu'ils aient mis un bouchon en Liège, mais voilà, je veux dire, on est de temps en temps, ben, avec le Liège on perd, et puis ben, il y a un goût de bouchon, donc dommage pour ce vin là mais je veux dire, je ne leur jette pas la pierre, parce qu'au contraire je trouve que c'est plutôt noble de mettre du vrai Liège.
D'ailleurs, très bientôt dans nectar.je.ch il y aura une spéciale bouchon.
Exactement, nous avons décidé de mettre sous le nez d'un vigneron une poignée de bouchons et il commentera chacun de ses spécimens. Tout à fait. Et il y en a qui sont très très bien imités. Voilà, j'ajoute que le vin que nous avons dégusté est un vin tout à fait confidentiel. C'est la vigne de Cornières qui appartient à la commune de Puplinges et c'est donc le domaine du Crêt qui s'en occupe.
Nectar.ge.ch, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec grand plaisir. Merci Sarah Mélan. Merci Aristide.
Merci.
Merci à vous, à bientôt.
Radio Cité Genève.